France Inter.
Ils étaient donc 20 000 hier en fin de journée rassemblés devant le palais de justice de Paris pour dénoncer les violences policières et soutenir la famille d'Adama Traoré qui se bat depuis presque 4 ans pour savoir dans quelles conditions est mort le jeune homme lors de son interpellation en juillet 2016 dans le Val d'Oise. Expertise et contre-expertise se contredisent. La dernière initiative de la famille met en avant un plaquage ventral des gendarmes qui aurait été fatal au jeune homme. En fin de manifestation, des incidents ont éclaté autour de la porte de Clichy. Le récit de Solène Cresson.
Ce combat, on ne le lâchera pas. C'est pour Adama.
Des nuages de gaz lacrymogène dans le ciel des manifestants qui crient leur slogan « Justice pour Adama ». Les CRS ont mis près de 2 heures à disperser les manifestants parmi la foule, souvent habillée en noir, code vestimentaire de ce rassemblement. Beaucoup cherchaient à fuir, masque collé au visage pour se protéger. Comme Hilary, elle qui est peu habituée à manifester et surtout très déçue de voir le rassemblement se terminer comme cela.
Il n'y avait pas d'histoire de faire la guerre, d'être contre les policiers, rien de tout ça. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où on a commencé à faire la marche, il y a des policiers qui ont commencé par bloquer toutes les rues. Et donc là, les gens se sont un peu énervés. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé à lancer du gaz lacrymogène.
Des milliers de personnes rassemblées pour une même cause, voilà ce qu'a voulu retenir Arnaud, venu avec des amis.
Le fond du truc, c'est le racisme en fait. C'est pas juste George Floyd, c'est pas juste Adama. C'est le fond du problème. Parce qu'on est là, on parle sur Internet, sur Instagram, George Floyd, Black Lives Matter. Mais voilà, faut être présent sur le terrain aussi.
En fin de soirée, plus aucun groupe de manifestants sur les trottoirs. L'odeur du brûlé et les débris au sol comme dernière trace de ces débordements. Et cette pancarte restée accrochée aux grilles du parc Martin Luther King avec ce slogan « Pas de justice, pas de paix ».
Reportage de Solène Cresson. La violence n'a pas de place en démocratie, a déclaré dans la soirée le ministre de l'Intérieur. Christophe Castaner qui salue le sang-froid des forces de l'ordre alors que la manifestation avait été interdite pour des raisons sanitaires et en raison de risques de troubles à l'ordre public. Des rassemblements ont également eu lieu hier à Lyon, Lille ou encore Marseille. La mort d'Adama Traoré entre en résonance avec celle de George Floyd qui provoque un immense mouvement de colère depuis 8 jours aux États-Unis. 60 000 personnes réunies hier soir à Houston, la ville de George Floyd. À Washington, les manifestants, dont la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, ont bravé le couvre-feu pour manifester. Rassemblement également à New York, où le couvre-feu a été prolongé jusqu'à la fin de la semaine. Dans cette dénonciation des violences policières et du racisme, la communauté noire américaine a reçu le soutien de grandes marques comme Nike, Netflix, Reebok ou New Balance. Alors, combat sincère ou opportunisme économique? Élément de réponse avec Delphine Simon.
Dans une vidéo d'une minute, Nike détourne son slogan « Just do it » pour le transformer en négation « Don't do it » pour une fois. Ne prétendez pas qu'il n'y a pas un problème en Amérique. Message retweeté, c'est exceptionnel par son concurrent Adidas. Le soutien est fort, les retombées marketing pourraient l'être aussi. Au vu du précédent de Colin Kaepernick, ce joueur de foot américain devenu symbole de l'antiracisme, Bertrand Chauvet, directeur du cabinet Brand Finance.
Nike avait déjà pris l'initiative avec Colin Kaepernick qui avait eu un impact de plus 10% sur les ventes trimestrielles. Aujourd'hui, en fait, on voit que le nombre de marques est beaucoup plus important parce que c'est une évidence. On ne peut plus aujourd'hui dissocier finalement la responsabilité des marques de leur responsabilité citoyenne.
Pour les entreprises, le risque aujourd'hui, c'est de ne rien faire. Laurent Mariani, professeur de marketing à l'école HEC.
C'est la communauté noire, c'est en même temps la petite classe moyenne américaine qui est concernée et c'est un public commercial très important pour ces marques.
Trop peu, trop tard, selon le collectif Sleeping Giants, qui cherche à détourner l'argent de la pub de certains médias considérés comme racistes.
Et à 7h15, le Zoom de France Inter à Washington, signé Grégory Phillips.
Il est 7h06, Agnès, en France, la fin des grandes manœuvres pour le second tour des municipales.
Les listes ont été déposées hier soir avec quelques surprises de dernière minute. À Toulouse, l'écologiste Antoine Maurice, arrivé en deuxième position au premier tour, a obtenu le soutien de la liste socialiste, arrivé en troisième position pour tenter de contrer le maire sortant, Les Républicains Jean-Luc Moudenc. À Strasbourg, le candidat à La République En Marche, Alain Fontanel, a fait in extremis cause commune avec Les Républicains. À Strasbourg, mais aussi Bordeaux, Metz et Lyon, le parti présidentiel penche donc de plus en plus à droite, mais sans cohérence, Karine Bécard.
Difficile de suivre La République En Marche avec ses élections municipales. À Bordeaux, par exemple, le candidat de la REM, Thomas Cazenave, a finalement rallié le maire sortant, le jupéiste Nicolas Florian. Mais cela n'a rien à voir avec ce qui s'est s'est passé à Marseille, puisqu'il n'y a pas eu d'accord entre les marcheurs et les républicains. Et puis, autre configuration encore, cette fois à Paris, la tête de liste dans le 5e arrondissement a préféré quitter la campagne de La République en marche pour mieux s'associer à la candidate de Rachida Dati. C'est ce qui s'appelle une stratégie « on ne peut plus illisible ». Et en réalité, c'est exactement ce qu'avait fait le MoDem lors des précédentes échéances municipales. En 2008 et en 2014, le parti de François Bayrou avait fait des alliances à géométrie variable en fonction des circonstances locales. Sauf que ce n'était pas ça. L'objectif de La République En Marche n'était pas d'être dilué dans une large majorité. Non, Emmanuel Macron voulait réconcilier et la droite et la gauche, normalement pour mieux les dominer.
Le second tour des municipales qui aura lieu le 28 juin. Les députés examineront de leur côté le 17 juin le projet de loi permettant de prolonger l'état d'urgence sanitaire décrété le 23 mars et prolongé le 11 mai jusqu'au 10 juillet. Les chiffres publiés hier soir confirment que l'épidémie de Covid-19 recule avec moins de patients hospitalisés et moins de malades en réanimation, passant sous la barre des 1300. Le bilan global a lui été réactualisé avec les chiffres du week-end de Pentecôte dans les EHPAD. Le bilan est désormais de 28 940 décès en 3 mois. Si le retour en classe des élèves s'accélère à la faveur de la phase 2 du déconfinement, les étudiants passent leurs examens à distance avec un conflit qui agite en ce moment l'université de Paris-1-la-Sorbonne. Faut-il prendre en compte les notes en dessous de 10? Le tribunal administratif de Paris se penche de nouveau sur cette question aujourd'hui. Sonia Princey.
C'est un climat terrible, dit une enseignante. Le chaos, selon une représentante de l'UNEF. La décision de ne pas prendre en compte les notes en dessous de 10 sur 20 provoque une tension inédite. D'un côté, les partisans de cette notation estiment que les étudiants n'ont pas pu avoir cours normalement, que beaucoup d'entre eux n'avaient pas de connexion Internet ou d'équipement informatique suffisant. De l'autre côté, les opposants estiment qu'on brade les diplômes. Mais un semestre sur les 6 que compte la licence, ce n'est pas le diplôme, rappellent les défenseurs du 10 garanti. Pour le recteur de Paris, au contraire, on ne peut pas donner 10 à tout le monde. Les jurys sont souverains et peuvent adapter les notes en cas de difficulté des étudiants, les remonter si nécessaire au cas par cas. Pour Céline, en première année de philosophie, l'attente est insupportable.
L'organisation des partiels du second semestre est une véritable catastrophe. Alors que nos partiels auraient dû être passés en mai, nous ne savons toujours pas comment nous allons être évalués. On a déjà subi la grève des transports, puis la crise que tout le monde a traversée à cause du Covid, et on ne sait plus trop où donner la tête. Et tout ce qu'on souhaite, c'est avoir une réponse claire et définitive pour bien terminer l'année.
Cette étudiante fait remarquer que l'université d'Aix-Marseille a adopté une mesure similaire qui n'a provoqué ni remous ni recours en justice. Pour elle, le débat s'est politisé parce que c'est la Sorbonne et ce sont les étudiants qui en font les frais.
Les tensions sociales ont été fortes chez Amazon France depuis le début de la crise sanitaire, mais le groupe américain bat tous les records. 1200 milliards de dollars de capitalisation boursière, ce qui en fait l'entreprise la plus riche au monde. Et en France, Amazon a séduit 2 400 000 nouveaux clients. Autre succès, celui de l'application Zoom, avec un chiffre d'affaires en hausse de 169% entre janvier et mars. L'entreprise californienne célèbre désormais pour l'affichage en mosaïque des visages de participants, a cependant été montré du doigt pour ses failles techniques. C'était l'un des cancers les plus meurtriers, le cancer des ovaires. Une étude qui fera date montre que des résultats inespérés en matière de survie pour près de 20% des femmes. Véronique Julia.
5000 nouveaux cas par an, plus de 3500 décès. Le cancer de l'ovaire est un cancer rare, mais c'est un tueur. Quatrième cause de décès chez les femmes. Difficile à dépister, il est souvent diagnostiqué tard, à un stade avancé. Longtemps, le pronostic est resté sombre. Pas une seule patiente vivante après 5 ans. Et puis la chirurgie s'est améliorée, on a gagné un peu de temps. Sont arrivées ensuite les thérapies ciblées. Une thérapie en particulier, elle cible une anomalie génétique bien précise qui concerne une patiente sur 5 à peu près. L'étude Solo 2 présentée au congrès montre que ce traitement, l'olaparib, donné après plusieurs rechutes sur des patientes en impasse thérapeutique, donne des résultats de long terme assez spectaculaires. Après plus de 5 ans de traitement, près de la moitié des patientes sont encore en vie et un quart d'entre elles sont même complètement stabilisées. Pour le professeur Frédéric Penot-Lorca, qui dirige le centre anti-cancer Jean Perrin de Clermont-Ferrand, c'est un espoir majeur pour les patientes.
Quand j'ai commencé mes études de médecine, avoir un cancer de l'ovaire, c'était une sentence de mort. Et aujourd'hui, on peut espérer guérir lire dans des bonnes conditions, en prenant des comprimés, en maîtrisant bien les effets secondaires, c'est quelque chose de totalement inespéré et de magnifique pour nos patientes.
Ces résultats obtenus sur des femmes qui avaient déjà fait plusieurs rechutes laissent espérer que donner plus tôt, plus précocement encore dans la maladie, c'est-à-dire dès la première rechute, le traitement devrait être d'autant plus efficace.
Explication signée Véronique Julia.
Il est 7h11, elle est de retour.
Lady Gaga et ses 30 millions d'albums vendus, 9 Grammy Awards au compteur et un nouvel album, donc Chromatica, une grosse production avec des invités stars et un son très électro dance music. Mathieu Quelleron.
Repoussée pour cause de coronavirus, la sortie du 6e album de Lady Gaga voit le jour dans une période insurrectionnelle exceptionnelle aux États-Unis. Intitulé Chromatica, le disque évoque d'ailleurs un monde criblé de conflits, mais fait aussi référence à un univers fantasmé à la Lewis Carroll dans le titre Alice. Lady Gaga qui se paye les collaborations d'Ariana Grande sur Rain On Me et même d'Elton John sur un autre titre. La chanson 911 fait référence au numéro d'urgence aux États-Unis, mais évoque aussi un médicament que la chanteuse utilise pour soigner ses névroses tout en expliquant quel est son pire ennemi. Après avoir démontré au cinéma qu'elle était capable de sobriété, la star des charts convoque ici le pire de l'EDM des États-Unis, version ultra commerciale de l'électro-américaine, et nous propose un déferlement de voix trafiquées à peine audibles noyées dans un océan de rythmes surcompressés. Musique sous vide au sens propre du terme, Lady Gaga n'en reste pas moins une artiste engagée pour les diversités. Sur son compte Instagram, elle se dit indignée par la mort de George Floyd et dénonce le racisme quotidien aux États-Unis, l'échec de Trump, le qualifiant de fou et de raciste et appelle à un changement au pouvoir.
Lady Gaga, Chromatica, c'est ouais. Aujourd'hui Nicolas.
Rhabillé par Mathieu Culeron, merci Agnès Soubiran.